Tiens, truc là.
Tu as vu l'iPad qui est sorti la dernière fois?
C'est le dossier de la semaine.
C'est le dossier de la semaine.
C'est le dossier de la semaine.
C'est le dossier de la semaine, mes amis.
Ah, ça c'est moderne.
Ça c'est moderne.
Alors, comme beaucoup le savent, Apple a annoncé sa nouvelle tablette à usage professionnel et l'un des arguments, l'une des différences avec les autres iPads, c'est la possibilité d'utiliser un stylet. Or, en 2007, lors de l'introduction de l'iPhone, Steve Jobs clamait « Nobody wants a stylus ». Personne ne veut un stylet pour ceux qui ne parlent pas la langue de Shakespeare. Cela a amené un débat stérile entre ceux qui prennent la parole de Saint Jobs comme parole d'évangile et les autres qui passent pour des putains de moutons aveuglés à la lueur de la Sainte Pomme. Alors, Steve Jobs aurait eu tort, Tim Cook aurait-il trahi le Messie ? Pour cette première chronique tech, je vais être carrément bourrin, on va remonter au tout début de l'humanité.
Ah ouais, carrément.
Ah oui, oui, non mais j'ai décidé d'y aller fort là pour cette fois-ci. Alors, nous utilisons des outils depuis toujours, parce que nos mains sont des outils absolument formidables d'adaptabilité, et comme souvent, quand on fait de tout, on est moyen en tout. Nos poings ne peuvent efficacement casser la pierre ou encore creuser la terre. La moindre usure met des jours à se réparer. Et je ne parle pas que du fait que je prenne des ampoules à chaque fois que je touche un outil. Mais il y a deux domaines dans lesquels nos mains sont excellentes. Toucher et surtout saisir des trucs, et c'est ça qui nous concerne aujourd'hui. Malheureusement, pour avoir une accroche et capter les informations de toucher, nous avons besoin de surface de contact. Et cela nous condamne à avoir des doigts en forme de boudin mou et des ongles plats plutôt que les griffes acérées à la manière du chat qui est à côté de moi.
C'est plutôt pratique les griffes des fois.
Oui. Les ongles, entre autres fonctions, soutenant l'appui effectué au niveau des empreintes digitales et permettant la saisie de petits objets. L'une des grandes forces de l'être humain aussi, c'est le jeu, cette faculté que nous avons de nous émerveiller et d'expérimenter. Eh bien, à force de jouer avec ces objets que nous pouvions saisir, nous avons commencé à interagir avec notre environnement, et entre autres à marquer notre monde avec nos doigts, mais aussi avec les pierres, gravant ainsi définitivement les parois des grottes ou autres rochers. Avec nos doigts, nous avons aussi laissé des traces de pigments divers pour dessiner facilement les formes complexes des objets et bêtes qui nous entouraient. De cette interaction et de son impact à long terme est née l'idée même de la transmission d'informations, une toute nouvelle forme de communication ne requérant pas que la personne l'exprimant soit présente ou même sans rappel.
D'ailleurs, on le voit bien, hein, le pigment au bout des doigts pour mettre des symboles, surtout dans les toilettes des gares. Voilà.
Exactement, c'est ça. C'est donc une tradition, qui remonte à l'aube des temps. Et donc on en vient facilement à l'arrivée de l'écriture. Nous avons encore une fois utilisé un outil. Pourquoi ? Probablement pour une raison de taille. Les premiers supports connus, peu après les vastes murs des grottes, étaient des petits bouts en argile de quelques centimètres, des jetons en fait, servant à mémoriser le nombre de bêtes d'un troupeau. Pas question de les dessiner un à un, il a fallu transformer cela en simple information de quantité, un trait égale une bête. Si cela vous paraît naturel, rappelez-vous que cette simplification à l'extrême de la représentation de la réalité sous une forme symbolique n'était pas possible pour vous, enfant, sans qu'on vous l'inculque, avec les mathématiques et le fait de compter des choses qu'on vous inculque dès la plus tendre enfance. Pour marquer ces jetons d'argile, nos ongles n'étaient donc pas assez précis. Donc un bout de bois, un bambou en l'occurrence, taillé en pointe, était beaucoup plus efficace. De cette utilisation est née l'invention et l'utilisation de l'alphabet ou autre forme de codification du langage axée sur une poignée d'éléments de base qui, combinés, expriment un sujet, une idée, une action.
Ah, il y avait déjà Google à l'époque, alors. Google Alphabet, il y avait déjà Google Alphabet à l'époque.
Non, il n'y avait pas Google Alphabet à l'époque. Et comme l'humain est aussi défini par sa flemme naturelle, nous arrivons à l'automatisation de cette écriture, c'est-à-dire l'imprimerie. S'il est plus rapide de tamponner que d'écrire manuellement, surtout quand on tamponne des grandes pages d'un coup, s'il est plus facile de tamponner que d'écrire manuellement, pardon, je me suis perdu, c'est naturellement qu'arrivent les machines à écrire, une espèce de machine à tamponner, au final. Appuyer sur un A, non, ça, justement, c'est après l'imprimerie. Appuyer sur un A, c'est quand même plus rapide que de dessiner un A.
Et je peux être pas d'accord avec un truc que tu as dit ?
Oui, je t'écoute.
Alors déjà...
Je suis pas d'accord.
Parce que tu dis, c'est par flemme qu'on a fait ça, mais c'est pas plutôt par possibilité de diffusion d'un texte à une plus grande échelle ?
Oui, non mais...
Moi, j'aurais parlé même de propagande, puisque le premier bouquin, c'était... Enfin, un des premiers bouquins, c'était quand même la Bible, donc...
Oui, mais quelque part, là-dessus, c'est effectivement, j'exagère un peu en disant que c'est la flemme naturelle, mais tu remarqueras que l'humanité a toujours cherché à se simplifier les choses.
C'est vrai.
À faire en sorte d'en faire le moins possible pour un même résultat. Donc c'est pour ça que c'est la flemme avec des gros guillemets, bien entendu. On va dire que c'est à la fois l'ingéniosité et l'envie de se simplifier la vie. d'accord, que j'ai dit flemme. Mais oui, effectivement, on pourrait en discuter. Donc du coup, s'il est plus facile de tamponner que d'écrire manuellement, du coup on en arrive aux machines à écrire, qui sont une espèce de machine à tamponner, puis l'avènement de l'informatique, avec l'utilisation d'un clavier pour rentrer les informations. L'alphabet est ainsi encodé en bits, il est en octets en l'occurrence. Il est plus facile de s'assurer que l'ordinateur comprendra l'information depuis une touche qu'une séquence de vecteurs que serait l'écriture manuelle. Néanmoins, une volonté reste ancrée. Celle de vouloir se débarrasser de cette frappe sur un clavier, jugée à tort ou à raison, comme une couche supplémentaire, une étape de plus dans la transmission d'informations vers l'ordinateur. Pour cela, on retrouve les stylets revenir. Dans les années 80, les MO5, les MO6, les TO7, nous voyons arriver les light pens, capables de pointer un pixel de l'écran. D'ailleurs, c'est rigolo, faut savoir comment ça marche, en fait, c'est assez con. Quand il y avait le balayage de l'écran, et en fait, selon le temps que ça mettait à recevoir l'information du balayage de l'écran, ça savait où c'était. Parce que forcément, vu que ça partait du pixel en haut à gauche et que ça finissait au pixel en bas à droite, du coup, à la microseconde près, ou à la milliseconde près, il savait où était le light pen sur la surface. C'est très con quand on réfléchit, parce que c'est super simple, mais voilà, donc ça c'était la parenthèse.
Il fallait l'imaginer quand même à l'époque, c'est quand même très fou. Il fallait y penser,
je trouve ça assez élégant comme solution.
Ouais, mais il existait pas encore avec sa chaîne, tout ça.
Non.
Bon, et si vous voulez ça, et pour ceux qui ne sauraient pas comment marchait le pistolet de la Nintendo à l'époque, au moment où vous appuyez, tout l'écran était noir, sauf un carré blanc là où était la cible, le canard en l'occurrence, et si vous étiez sur ce carré blanc au moment où vous appuyez sur la gâchette, le pistolet voyait du blanc globalement, et donc il savait que vous aviez touché la cible, sinon vous n'aviez pas touché la cible.
Quoi, voilà. Tu veux dire qu'on n'arrive pas à voir, c'était trop rapide pour qu'on le voit ou quoi?
Oui, bah oui, c'était trop rapide.
Oh.
C'était un interframe. Donc tu mets une télé sur laquelle il y a du blanc.
Fonctionnait avec des images.
Oui.
C'est étonnant. Bah oui,
donc voilà. Bref, j'en étais où moi? On parlait du light pen capable de pointer un pixel de l'écran. Donc désigner le centre d'un cercle et sa périphérie, par exemple, permettait de tracer un cercle beaucoup plus intuitivement que d'entrer des coordonnées chiffrées. Il se perfectionne un peu un temps, surtout au niveau des programmes qu'il est supporté, permettant donc de dessiner des courbes, mais à tenir un bout de bras, un stylet vers l'écran, c'est pas ergonomique et cette position fatigue les épaules. Et puis elle n'est parfois pas aussi précise que nécessaire. Et le light pen disparaît peu à peu du marché grand public, avec l'évolution technologique. On voit apparaître une autre solution, celle de déporter la couche d'entrée de l'information de l'écran. Elle se retrouve ainsi sur le bureau. Il y a un triple avantage à faire ça. Le premier, c'est que le stylet est tenu comme un stylo sur une feuille, ce qui est une position beaucoup plus naturelle. L'information de l'écran n'est jamais obstruée par la présence du stylet ou même la main.
Ouais,
c'est un peu le problème quand tu pointes quelque chose, ou même à l'heure actuelle sur un iPhone, tu peux pas être hyper précis parce que déjà t'as un gros doigt, et puis tu caches ce que tu veux désigner. Et puis donc le duo surface sensible plus information provenant du stylo permet d'obtenir aussi non seulement de la précision, mais aussi une notion de force d'appui, comme avec une vraie plume sur un papier par exemple.
Ouais, mais je suis pas d'accord.
Je t'écoute.
Je suis pas d'accord.
Es-tu gaucher ou droitier ?
Droitier.
Donc voilà, tu ne comprends pas le problème. Quand tu es gaucher, que tu écrives avec un stylo très fin ou très gros, peu importe, forcément, tu masques une partie de ce que tu écris rapidement.
Bah oui.
Oui, alors je disais que...
Donc la précision, elle est proche de zéro.
Non, je parlais du pointeur. D'accord ?
Ouais, mais du coup, c'est pareil.
Parce que... Non, mais... On est d'accord que si tu as un stylo, un stylet tactile, d'accord, ou n'importe quel autre truc, qui pointe sur ton écran, d'accord, il y a la surface que va prendre ta main dans ton angle de vision, d'accord, plus le stylet lui-même sur l'écran, ce qui n'est pas excessivement gros, d'accord, mais quand même, tu vas avoir quelque chose qui va venir cacher. Alors que là, tu as juste le pointeur de la souris.
Ouais.
Ce qui est donc comme si tu avais une souris, donc tu gardes l'avantage d'avoir un truc assez minimaliste qui va être sur ton écran. C'était juste ça que je disais, c'était pas plus que ça. Donc là, tu es d'accord avec moi du coup que tu obstrues moins l'écran parce que t'as pas ton bras devant l'écran globalement et t'as pas ta main devant, et que tu sois gaucher ou droitier, ça ne change pas. Donc encore une fois, la pointe du stylet a beau être fine, la surface très sensible, ça demande à l'utilisateur d'être précis lui-même. Par exemple, si je vous donne tous un feutre là pour écrire sur un grain de riz, d'accord, ceux qui sont faits pour, combien d'entre vous y arriveront?
Moi
personnellement,
pas.
Je sais que j'y arriverai pas.
Ah non, non plus.
Le blond, il y arrivera.
De quoi?
Le blond, il y arrivera.
Quoi, oui, le blond, évidemment. Celui qui a les poils bien, bien coiffés, tout ça, et qui se fait une sale saison quand il est bourré. D'accord.
Parce que quand il colorie, ça ne dépasse pas.
Exactement.
Ok, donc j'ai dû louper un truc là parce que.
C'est un sketch de Gad Elmaleh.
D'accord.
Quand il était drôle.
Quand il était encore drôle, ouais. Vient ensuite la mode des PDA, assistants personnels numériques, prévus pour tenir dans la poche. Alors, lorsque les ingénieurs de Apple avec le Newton ou Palm de chez Palm ont sorti un PDA, ils ont voulu reprendre le schéma crayon bloc-notes pour s'adresser au plus grand monde et ont ressorti le stylet des tiroirs. Pas de notion de force, le stylet étant un simple bout de plastique dont la seule spécificité est de ne pas rayer l'écran. Et encore, je vous jure, au début, c'était pas gagné. Deux constructeurs, deux approches différentes pour l'entrée des caractères. D'un côté, le Newton tente de viser haut en interprétant les mots écrits à main levée. C'est d'ailleurs visé beaucoup trop haut pour l'époque, et ça se traduit par une frustration, parce que ça reconnaissait les caractères une fois sur 10 000, j'exagère, mais c'était presque ça, qui est d'ailleurs, ça c'est une des causes de l'échec commercial du Newton. L'autre, Palm, a une approche entre guillemets de biais, un alphabet codifié et une écriture lettre par lettre. En bas de l'écran, deux zones, une pour les lettres, une pour les chiffres, et des gestures correspondant aux lettres avec un point de départ et d'arrivée précis, et défini à l'avance. Un exemple. Le A, il n'est composé que d'un trait unique, composé de deux mouvements. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne faites pas de barre horizontale, vous partez du bas en bas à gauche, vous remontez en diagonale, et vous redescendez en diagonale sans lever le stylo, et vous arrivez donc en bas à droite. Et là, c'est un A. Voilà, il n'y a pas besoin de trait horizontal. Le B, c'est sensiblement... ça ressemble à un B. Vous partez d'en bas, vous remontez droit, puis vous faites deux arcs de cercle en redescendant. Voilà, enfin, c'est un alphabet qui est un peu simplifié et que vous apprenez, a priori, en une après-midi. Donc ça s'apprend très très vite. La machine peut l'interpréter facilement. Et c'est d'ailleurs là un succès commercial, le Palm, à l'époque. Mais c'est lent. C'est très lent. C'est à 1000 lieues de la vitesse d'un clavier. Donc, sur les Pocket PC avec Windows CE, eux, ils ont eu une autre approche. Celle d'un clavier virtuel dessiné à l'écran qui permet donc une frappe beaucoup plus rapide, si on est précis. Mais ça augmente les fautes de frappe, du coup, parce que forcément tu peux pas taper au pouce, tu tapes toujours au stylet. Mais au lieu de dessiner un A, et bah t'appuies sur un A, c'est exactement ce que je disais avant, où appuyer sur une touche est beaucoup plus rapide que de dessiner la lettre. Sur BlackBerry, pour passer d'un téléphone à un assistant, ils changent pas leur recette, hein, l'écran change, ils passent en couleur, l'OS évolue, mais ils gardent un clavier physique complet. Cela alors ajoute du volume ou réduit la taille de l'écran, hein, selon si on a un volume fixe ou pas, mais ça s'avère très efficace et ça sera adoré par les professionnels pour envoyer des mails. Mais tout cela, ses avantages et ses inconvénients, et aucun vraiment ne sort du lot comme avancée technologique majeure.
Et puis t'as les claviers aussi des téléphones classiques avec le langage avec SMS, le on va dire, et le T9, voilà.
Mais là, je
c'était plus la même cible, c'est pour les PDA, là.
Tout ce qui était PDA, ouais, en fait. Mais c'est vrai PDA, que dans l'absolu, il y avait le 9 aussi, hein. dont j'aurais pu parler, mais voilà, j'aurais pu parler de plein d'autres choses.
Et ça marchait bien, hein, le clavier de Windows CE. J'en avais, c'était terrible. Hein.
Et je l'ai testé il n'y a pas si longtemps, parce qu'on se débarrassait de vieux trucs sur Windows CE, c'était pas dégueulasse, effectivement. Ouais.
Bah, c'est comme les claviers actuels, sauf que tu as un stylet à la place du doigt, en fait.
C'est ça. Au final, Steve Jobs n'avait pas tort dans sa présentation de 2007. Un clavier physique a ses problèmes d'encombrement, un clavier tactile avec stylet c'est un peu imprécis, et puis c'est frustrant, un alphabet de mouvement avec un stylet c'est lent, sans compter qu'un stylet demande l'usage d'une main pour le téléphone et l'autre pour le stylet. Personne ne veut un stylet, oui, mais personne ne veut un clavier physique non plus. À l'époque, comme maintenant, tenir le téléphone d'une main est la norme et toutes ces solutions requièrent deux mains, y compris souvent le clavier physique vu qu'on tapait avec les deux pouces.
Oui.
Lorsque nous interagissons avec nos mobiles, et justement tu parlais du T9 et t'avais pas complètement tort du coup, hein, très souvent quand on utilise nos mobiles, on marche, on a besoin de maintenir notre équilibre, on a besoin d'ouvrir des portes, on a besoin de payer avec la carte bleue, bref, on a besoin de faire d'autres choses avec l'autre main. Le premier qui me sort un truc sur le fait d'aller sur des sites, sites internet d'une main, je viens et je lui pète la gueule.
S'il te plaît, pas qu'un téléphone quoi.
Ouais, surtout si t'envoies un SMS en même temps, ça va pas le faire là.
Bref, comment ont-ils résolu cette problématique ? Un clavier tactile au pouce. Mais attention, en prenant en compte que ses doigts sont gros et appuieront au mauvais endroit parfois, donc en ajoutant une couche de prévision de la touche suivante.
Oui, il y a une énorme marge de tolérance.
C'est ça. Une consonne est suivie d'une voyelle, donc si on appuie sur deux touches en même temps, seule la lettre la plus probable sera prise en compte. Je simplifie extrêmement le principe, d'accord ? Mais c'est le fonctionnement de base. Parce qu'en vrai, ça arrivait à détecter quel mot, de la même manière qu'on a les mots qui nous sont proposés maintenant, il y avait aussi une probabilité en fonction du langage utilisé pour que ça soit la lettre d'après. Par exemple, si je tape EN, a priori la lettre d'après ça va être T, parce que ENT, un verbe à la troisième personne du pluriel. et du premier
coup. Et puis t'as aussi des claviers maintenant qui apprennent de même les mots que tu utilises régulièrement pour aussi être encore plus précis.
C'est ça. Donc c'est pour ça que je disais qu'une lettre, enfin une consonne est suivie d'une voyelle, c'est un fonctionnement de base, mais qu'il était à milieu du fonctionnement réel, quoi.
Voilà.
Mais les claviers qui apprennent le langage comme ça, c'est quelque part un T9 amélioré.
C'est ça, c'est exactement ça. Donc au final, c'est ça, la véritable avancée majeure. C'est exactement ça qui a remis le stylet dans les tiroirs, la frappe prédictive. Donc maintenant, vous comprenez comment et pourquoi Steve Jobs avait raison sur un smartphone. Personne ne veut un stylet. Mais la problématique principale de l'iPhone, c'était l'entrée des caractères. Car on était globalement sur un PDA, gérant les SMS, les contacts et les événements. Maintenant, on a la navigation web, on a 20 milliards d'autres choses, mais globalement, la problématique du... et ce qui requierait un stylet jusqu'à présent, c'était l'entrée des caractères. Donc, lorsque l'iPad est sorti, faut savoir que... lorsque l'iPad est sorti, nous n'avons vu qu'un gros iPod Touch. Les trois quarts d'entre nous, quand ils ont vu l'iPad, ils ont fait « Ouais, je suis un peu déçu, je m'attendais à un truc sur macOS 10 », pour nous sort un iPod Touch de 10 pouces.
Quand tu parles de l'iPad, c'est le dernier,
l'iPad Pro.
Non, je parle du premier iPad.
Ah, le premier, oui. Donc le lancement de la tablette.
C'est ça. C'était en 2010, du coup. Donc on a tous vu qu'un iPod Touch, mais en plus gros, pas capable de téléphoner, pas capable de machin, et juste, voilà, toujours avec iOS, tout qui était juste plus gros. Et pourtant, ça a révolutionné le monde tout autant que l'iPhone 3 ans plus tôt. Le marché des tablettes avant l'iPad était quasi inexistant. C'était les tablettes PC, c'était réservé aux professionnels, ça coûtait une blinde et demie.
Et
le
ça
monde des tablettes,
super
c'était pas...
lourd, c'était affreux.
Ouais, mais c'était génial en utilisation.
Ah
pro,
oui, c'est sûr.
C'était un truc de fou, quoi. Moi, ça me faisait rêver. Donc, quand on se rappelle de l'impact dû au passage des murs immenses à des jetons en argile, on peut savoir donc que la taille de la surface a un impact énorme sur l'utilisation. Et on l'a revu avec l'iPad. Donc, je sens les petits malins qui vont me dire, justement, on a besoin d'un stylet spécifiquement pour les petites surfaces, parce que tout à l'heure, t'as dit qu'on avait utilisé un bambou parce que c'était trop petit. Bah non, c'est pas aussi simple. Il s'agit ici d'utiliser le meilleur outil pour l'usage. Les règles, elles sont pas aussi absolues que ça. Souvenez-vous, l'iPad n'a pas été annoncé seul. Un des premiers accessoires de l'iPad annoncé à sa sortie, donc toujours l'iPad de 2010, c'était un clavier. Cela peut paraître normal, c'est pas apparu comme un échec d'où nous renier le concept du clavier prédictif. Rien ne remplace un clavier physique grand format pour taper rapidement. Okay. Mais un clavier tel que celui-ci est dédié à un usage sédentaire à deux mains, pas en marchant. D'ailleurs, si l'iPhone se doit d'être utilisé d'une main, personne ne s'est plaint de ne pouvoir le faire avec l'iPad. Et enfin, deux exemples directement liés au sujet. Et vous viendrez jamais à l'idée d'annoter efficacement un PDF sur un iPhone. Je veux dire, entourer, faire une flèche. Alors que sur un iPad, déjà plus. Dessiner sur un iPhone, et a fortiori une Apple Watch, on est tous d'accord pour dire que c'est ridicule ou volontairement imprécis.
Sur un Apple Watch,
encore
plus.
Voilà. Alors que sur un iPad, eh ben, beaucoup ont créé des œuvres d'art.
Ouais, sur l'iPad, c'est sympa. J'ai un peu testé, c'est cool. Bon, je suis pas dessinateur, donc voilà, mais c'est cool.
Bah, d'ailleurs, le problème de ton iPhone, c'est surtout la taille de l'écran qui est relativement petite, mais maintenant,
c'est spécifiquement
avec les...
ça. Mais même
avec les
Fablets. Plus.
Non, mais avec même les tablettes, voilà, c'est un peu plus compatible.
Non, mais c'est pas. Oui, c'est un peu moins chiant, mais.
Quand on a la prise de notes, je trouve.
Oui, c'est un petit truc, un petit croquis rapide, un petit machin, mais tu viendras pas dessiner quelque chose. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a énormément de stylets capacitifs qui sont sortis après la sortie de l'iPad. Alors, essayez pas les stylets capacitifs pour ceux qui se diraient « Ah tiens, c'est peut-être pas con, c'est de la merde. Hein, » Je veux dire, c'est assez catastrophique sur un OS vu qu'il est prévu pour le doigt. Donc ça va pas vous apporter grand chose. Vu que la précision aussi de là où ça va pointer est prévue pour un doigt, donc un truc beaucoup plus gros que le stylet, donc ça va pas vous apporter plus de précision. Hein. En tout cas pas sur iPad.
Je peux te dire, sur Android c'est de la merde aussi. Hein.
Ouais, j'ai essayé, j'étais très déçu.
Et puis généralement les stylets capacitifs, tous ceux que j'ai vus, c'était un embout en caoutchouc en fait.
Oui, puis en plus accroche dessus, c'est
déjà. Et puis tu dis la précision, je pense de base sur l'OS est pas fameuse. Mais en plus là c'est une sorte de boule en caoutchouc que tu écrabouilles sur l'écran, donc c'est vraiment pourri quoi.
Non mais en plus
la sensation évoluait aussi quand même, parce qu'avant les écrans ils étaient comme qui dirait rugueux, alors que maintenant t'as des gorilles à glace dessus et du coup le tactile est beaucoup plus agréable.
Ouais, mais alors juste une info, ils étaient rugueux parce que la capacité c'était résistif de l'écran et qu'il fallait que ça soit
rugueux.
Donc
il fallait qu'il y ait une déformation aussi. Il fallait qu'il soit souple surtout.
Avant le Touch 3D et je sais pas quelle autre connerie.
Bah avant le capacitif, c'était du résistif. Donc qui dit résistance dit une déformation du matériau. Capacitif, il n'y a pas de déformation du matériau, donc on n'a pas besoin d'avoir une petite feuille en plastique par-dessus l'écran pour détecter le changement et les perturbations. Quoi.
C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fallait appuyer fort dans les coins, ça, tu sais, ça.
Bah oui, forcément.
Ça déformait même les couleurs.
C'était une toile tendue sur un cadre globalement, donc du coup quand t'étais dans les coins,
il fallait que t'appuies. Quoi. Quand t'avais un téléphone qui avait 2-3 ans, tu sentais vraiment qu'il avait du mal à prendre en compte quand t'appuyais.
Et le pire, c'était ceux que tu ne pouvais pas calibrer, ou
oh,
ceux que tu ne pouvais plus calibrer,
dire
et qui,
ça.
Avec le temps, en plus,
se
décalait parce que t'avais un endroit qui commençait à être un peu plus lâche que l'autre, et donc la résistance variait avec le temps, et notamment t'as la Nintendo DS qui utilise un écran résistif, moi j'en ai une dans un tiroir dont je me sers plus parce que c'est décalé. Et que c'est tellement décalé que la reconnaissance de calibration ne fonctionne plus. Et ça a été un gros problème sur les DS. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Bref, revenons à nos moutons. Bah. Je disais que la taille nous ramène à l'interaction stylo-feuille, la taille de l'iPad. Elle nous ramène donc à l'interaction stylo-feuille à laquelle nous étions habitués pour la prise de notes rapide ou les dessins, les croquis. Et pour cela, rien n'est jamais arrivé à remplacer le stylo et la feuille. Alors, je sais que je suis parmi plein de gens qui sont fans de technologie et qui vont peut-être me gueuler dessus, mais combien d'entre vous ont un ordinateur lors des réunions, mais finalement chopent une feuille de brouillon et un crayon pour dessiner une maquette, un truc sur un coin de table? C'est quand même le truc le plus efficace du monde.
Bah, surtout si c'est pour faire un croquis.
Oui, surtout si c'est pour faire un croquis, mais pour exprimer rapidement une idée ou juste pour prendre une note. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui est plus rapide et plus intuitif que. Alors. Pas pour des longs trucs, hein, mais pour une petite idée, un petit machin, un truc à noter, justement. Je veux dire, même moi qui ai des ordis partout, j'ai des post-it. Voilà. Donc l'interaction papier-crayon, elle est encore bien présente. Donc en agrandissant encore l'iPad avec l'iPad Pro, du coup, ils avaient, par ce changement de taille, l'obligation de sortir un stylet, afin de proposer un véritable nouveau produit bien plus complet que l'iPad, et qui se démarque surtout de l'iPad. Donc j'aurais pu résumer ma chronique en une phrase, parce que la chronique elle a été longue, mais franchement elle se résume en cette phrase-là. Steve Jobs avait raison sur l'iPhone. Personne ne veut styler sur l'iPhone. Mais il n'a rien dit sur les tablettes. Les tablettes c'est pas pareil. Mais bon, ça aurait manqué un peu d'arguments quand même. Ma vraie question en fait c'est, sortira ce stylet, cet Apple Pen, sortira-t-il un jour sur iPad non Pro? Ou alors existera-t-il un jour un iPad Pro Mini?
Oh là là.
Certainement.
Ce sera abusé ça.
Mais après,
tu focalises quand même sur l'iPad, mais je voudrais quand même qu'on dise que.
Il y a la Surface.
La Surface Pro qui est tout bonnement excellente.
Il y a les Galaxy Notes aussi dans l'absolu.
Qui sont très bien.
Je les connais pas, mais moi j'ai testé que l'iPad premier du nom. Et déjà là, à l'époque, j'étais halluciné par la qualité de ce que tu pouvais dessiner sur l'écran, quoi.
Mais encore une fois, c'est prévu pour les doigts et ça a ses limites. Parce que justement, ça fait une certaine taille.
Mais moi, j'ai eu l'occasion de tester, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, j'ai eu l'occasion de tester un Galaxy Note 3, donc avec un stylet. Justement, tu parlais tout à l'heure de prendre des notes rapides, comme sur un post-it, ou de faire un petit schéma vite fait. Et bah, le fait que tu aies le stylet, ça te permettra facilement de le faire. Et justement, avec un appareil comme ça, t'auras peut-être plus le réflexe de faire ton schéma ou ton petit croquis sur le téléphone, que sur une feuille et un crayon.
C'est possible, mais encore une fois, faut que tu lances une application, Là, c'est des paradigmes aussi dont j'ai pas parlé, mais...
Non, parce que, justement, sur le stylet, t'as un bouton raccourci qui te permet de lancer, en un petit appui sur le bouton, tout de suite l'application pour dessiner.
Ouais.
Pour prendre des notes. Et ça ressemble un petit peu à une application comme OneNote, qui est vachement intuitive, vachement... bien foutu au niveau de la mise en page, au niveau reconnaissance des caractères, etc.
On y viendra probablement, mais le problème c'est que à remplacer le papier et le crayon, pardon, parce que si j'explique pas mon idée jusqu'au bout, ça va pas.
C'est vrai.
Y a quand même des choses sur lesquelles on pourra jamais lutter, et c'est pour ça que je pense qu'on s'en débarrassera jamais vraiment, c'est le côté pas cher du papier. C'est-à-dire, certes, je peux te noter un truc, je te l'envoie par mail et tout, mais tu vois, c'est des actions. Alors que je dois te noter un numéro de téléphone, Je te le note sur un bout de papier qui traîne, une serviette, un machin, et je te le donne. Tu vois, il y a pas besoin de s'échanger une adresse mail, il y a pas besoin de.
C'est sûr que si je dois écrire sur un écran d'ordi et puis que je te file l'ordi, ça va me faire mal au cul. Hein.
Bah soit tu files l'ordi, et ça fait très mal au cul. Soit sinon il y a un échange de coordonnées personnelles en plus de cet échange initial.
Ça fait plus de procédures à faire.
Ça fait plus de procédures. Le jour où éventuellement, tu vois, tu pourras envoyer, et encore le problème, c'est qu'il y aura trop de normes pour ça, mais le jour où tu pourras envoyer, genre par NFC, un petit truc que tu auras écrit rapidement et que voilà, tu bumpes le téléphone et puis c'est envoyé sans que tu aies à lancer une application, c'est que tu sais que ça se fasse tout à fait naturellement.
Là, non, c'était le but d'AirDrop. Mais...
Ouais, mais AirDrop, tu vois, le problème, bon, alors, déjà, c'est du Apple, 15, donc c'est compatible qu'avec du Apple. En plus, c'est du Apple post Steve Jobs, donc ils sont pas foutus de coder. Donc ça veut dire que ça chie dans la colle comme c'est pas permis. Pour vous dire, pof, lui, il a installé Yosemite sur son MacBook Air. Depuis, son MacBook Air, il tourne sous Ubuntu. Donc voilà, ça vous donne l'idée. Non, mais blague à part, pour revenir sur le sujet, parce que là je dévie un peu, il y a encore énormément de choses qui sont plus simples à faire avec un papier et un crayon.
Ça,
et comme
sûr.
Je le disais, on est des gros flemmards, quand même, dans l'ensemble, contrairement à ce que Kenton voulait que je dise.
Mais on a raison d'être des flemmards.
Et donc du coup, s'il y a une solution plus simple, on va toujours la prendre.
Ouais, quand même.
Donc si écrire un petit... parce que bon, moi par exemple, je travaille je suis dessinateur industriel. J'ai un ordinateur avec un logiciel que je maîtrise parfaitement depuis le temps, qui me permet de dessiner des pièces en 3D, même de faire des petits schémas, même en 2D si je le souhaite. Bah au final, quand je dois discuter avec des collègues, même si sur l'ordinateur ça me prendrait peut-être 30 secondes de plus... sur 5 minutes, je parle, et ben au final, et ben, je dessine quand même sur un papier et un crayon, parce que mon collègue, lui, il va pouvoir m'entourer un truc, on va être autour de la feuille, et puis on va brainstormer sur le truc.
Ou alors, encore mieux, un tableau Velleda.
J'adorerais un tableau Velleda, j'en ai commandé un, et ils m'ont toujours pas filé.
Ah, c'est des cons.
Ouais, bah ouais, mais moi, ou alors un truc de réunion, mais le problème c'est que je boufferai du papier tout le temps, donc parce que j'adore travailler sur des tableaux, j'en connais un qui va se foutre de ma gueule dans les commentaires.
ce serait pas pour ça que la chronique s'appelle la chronique du professeur.
C'est un peu ça, mais j'ai mes parents qui sont profs, ça joue, je pense.
Oh non, tu descends dans l'inestime.
Pauvre.
Mais enfin, j'ai un père prof et un père formateur et une mère prof.
Enfin, maintenant ça passe encore mes profs.
Mais donc du coup les tableaux, j'en ai jamais eu peur en fait. Donc au contraire j'aime bien ça. Je trouve que c'est des grandes surfaces pour travailler.
Bah,
et
justement.
D'ailleurs ça j'attends le jour où on aura une tablette d'un format qui prend le mur. Là ce jour-là, vous avez les tableaux interactifs.
Bah c'est
là.
Ah
oui, non, mais ça
j'avais
déjà
au collège.
C'est génial.
Le peu que j'en ai vu c'est génial, ouais. Et moi, je suis resté encore longtemps au tableau avec la craie, l'ardoise, et puis je suis passé à Pro Velleda, mais j'ai jamais trop vu le.
Eh ben, dis-toi que j'ai trouvé un truc qui était vieux comme le monde, enfin qui devait dater, à mon avis, des années 90, quand j'ai fait un stage, pardon, à Areva.
Une tapisserie lavable.
Un projecteur.
Non, c'était, c'est, alors j'ai pas entendu ce que tu disais, Kenton.
Une tapisserie lavable.
Non. C'était un tableau blanc qui fonctionnait avec des Velleda.
Jusque-là classique.
Jusque-là classique. Tu dessines. Et ensuite, je sais pas du tout comment ça marchait, mais t'avais un truc qui venait te... Tu voyais une lumière... Enfin, t'appuyais sur un bouton, tu voyais une lumière qui passait derrière, et ensuite, ça t'imprimait sur papier thermique le contenu du tableau. Mm-hmm. Et c'était un vieux truc. Je veux dire, c'était... Je sais pas combien ils en ont sorti, mais j'ai trouvé ça juste génial. C'est hyper low-tech, ça t'imprime ça sur du papier thermique dont t'as pas problème de cartouche, de machin, et tu te retrouvais avec au format A4 ton tableau. Alors comme évidemment t'écris toujours plus gros sur un tableau, c'est pas gênant que ça soit réduit à un format A4, et du coup à la fin des réunions, et ben une fois qu'on avait bien tout noté, on imprimait 2-3 fois, ou on imprimait une fois puis on allait photocopier le truc, et tout le monde récupérait le tableau.
Mmh,
et je savais pas qu'une technologie comme ça, enfin un truc comme ça existait, ou avait existé il y a longtemps, quoi. Donc voilà, c'était la petite.
Ça a dû exister, mais peut-être que pour une raison de coût.
Ah, je pense que ça devait coûter une blinde, ouais. Je pense que c'était un truc typiquement professionnel, quoi. Mais bon, voilà, donc du coup, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire pour remplacer le papier et le crayon, mais on s'en approche, et l'iPad Pro, bizarrement, est un pas en avant pour ça. Parmi les autres, évidemment, qui arrivent. Mais sauf que je sais aussi que Apple a l'habitude d'arriver après les autres. Et de se poser comme étant le standard ou le but à atteindre. Ça, c'est quand même assez typique.
C'est prétentieux,
d'Apple.
Mais généralement, ça marche.
C'est ça.
C'est-à-dire
que, par exemple, un stylo qui est capable de se charger en 30 secondes, pour faire genre je sais pas je sais plus combien de temps c'est censé faire, mais je crois que tu le charges 30 secondes
un quart d'heure.
Un quart d'heure seulement,
ouais, c'était pas oui, enfin, de toute façon, à partir du moment où t'as déjà un quart d'heure en 30 secondes, c'est déjà pas mal.
Voilà, c'est ça, c'est-à-dire
non, mais à partir du moment où il faut le recharger, c'est pas normal, c'est surtout ça.
Mais, oui, non, mais justement, il y a deux solutions. Soit tu décides de faire comme ma tablette Wacom, par exemple, où tu as des piles à l'intérieur et elles sont utilisées au minimum, etc. etc. Soit tu, et donc, du coup, t'es obligé de les changer, mais c'est super chiant, enfin voilà. Soit sinon, tu te dis. Bon, eh ben on va mettre une batterie dedans, certes on va être obligé de la faire petite parce que du coup je vais avoir plus de place pour le reste de la technologie et tout, mais tant qu'à faire, eh ben je vais la charger rapidement.
Et moi, mais
et ça,
ma
en tablette soit, Wacom, j'ai absolument rien contre, c'est un choix.
J'ai pas de piles dans mon stylet Wacom, tout est dans la tablette, enfin dans le...
Moi j'ai des piles dans la mienne.
Ouais, ça marche par induction en fait apparemment. Hein?
Alors c'est vrai qu'ils auraient pu le faire par induction. Mais peut-être que s'ils pouvaient pas, parce que ça aurait fait une tablette plus lourde.
Bah
parce
surtout,
que
madame, ça aurait tout de suite donné un iPad avec induction, alors que pas tout le monde va acheter un stylet. Donc
c'est ça.
Je pense que ça va jouer.
Parce que le stylet, c'est uniquement pour ceux qui en ont besoin. Donc, et au final, je pense que tous ceux qui auront un iPad Pro vont finir à un moment, soit par tester le stylet du voisin ou du pote, soit s'en acheter un parce que bah, ça paraîtra logique et parce que ça ils auront envie tout simplement, mais au moins pour une fois ils auront la possibilité d'avoir un vrai stylo, un vrai fonctionnement.
La grande question c'est est-ce qu'ils l'achèteront et puis ils s'en serviront, ou est-ce qu'ils l'achèteront et puis ça restera à prendre la poussière sur une étagère.
C'est une bonne question.
En général, quand t'achètes un truc à ce prix-là, tu veux rentabiliser ton achat.
Par contre, le prix, on pourrait en discuter parce que là, je trouve quand même que 99$ pour un stylet, ça pique.
Pour une pile avec un câble qui relie un capteur de pression, ouais, ça fait.
Ça fait super cher. Disons que à 50€, tu vois, déjà, j'aurais dit, ok, c'est un peu cher, parce que c'est du Apple.
Mais ça pourrait passer.
Mais ça passe. Tu vois, parce que bah tu prends un stylet de remplacement pour une bonne Wacom de bien grande, bien de pro, tu vois, avec 128 milliards de niveau de pression. J'exagère, mais c'est presque ça. Tu t'en tires peut-être pour 50€, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc un truc moins bien, parce que je pense pas qu'il ait autant de niveau de précision que les tablettes Wacom les plus avancées. Bah, tu te dis, bon, voilà, bah, c'est la taxe Apple, t'as un truc semi-pro pour le prix d'un truc professionnel, bon, ben bah, voilà, c'est normal. Mais là, quand même, là, 100€, faut pas déconner. Quoi. Et voilà. Bon, cela dit, je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont l'intention de l'acheter, l'iPad Pro, mais moi, pour l'instant, je le reluque, mais j'attends.
Voilà, non, ça m'intéresse pas du tout, moi.
Ça veut quand même dire que tu l'envisages un peu.
Ben oui, surtout dans mon métier, donc
oui, c'est... Pas, ouais.
C'est-à-dire que justement, tu vois, le comme je disais, prendre un papier, un crayon pour prendre des notes et annoter un PDF, un plan, un machin. Bah ouais, là j'avoue que ça serait vachement pratique parce que bah du coup on fait une réunion, au lieu d'annoter le plan et puis ensuite de faire des photocopies, je la note et puis je l'envoie à tout le monde par mail. En plus, il y a personne qui perd le papier et qui demande à l'autre de le renvoyer. Voilà, on est tranquille. Alors c'est vrai que je pourrais le scanner, mais pour ça, faudrait que j'aille au scanner en bas. J'ai pas envie d'aller en bas, parce que je suis un flemmard, il y a des escaliers. Et donc.
Mais tu parlais d'annoter des PDF ou des choses comme ça, mais t'as Microsoft Edge qui se propose de faire tout ça directement.
Oui, mais encore une fois, là tu me parles d'une question software, moi je te parle d'un problème hardware.
Oui, il lui faudrait une Surface Pro à la place, c'est tout.
Oui, voilà, non, mais c'est-à-dire que quand je dis l'iPad Pro, je l'envisage, s'il y a eu un autre truc qui au final me parle plus et fonctionne tout aussi bien, je finirai par le prendre. Moi, la Surface, par exemple, j'ai absolument rien contre. C'est quelque chose que j'envisage tout autant. De la même manière que j'envisage un vieux tablette PC. Je sais pas, le problème, si tu veux, d'avoir un OS complet, mais je sais pas si on a le temps de débattre autant de ça, Kenton, non, ça va,
on va quand même essayer de faire un peu plus court que, voilà, parce que tu m'avais dit d'accord. Un quart d'heure et qu'on est déjà une demi-heure.
Mais... Moi, j'avais dit un quart d'heure pour ma chronique. Bon, après, si on commence à partir sur des sujets intéressants, tu sais que je peux y passer 3 heures.
Ouais, c'est mais, ça, mais il faudrait faire un truc spécial.
C'est super intéressant, c'est ça le pire, quoi.
C'est ça. Mais, non, mais moi, le problème, c'est que j'ai un problème avec un OS complet et pas dédié à un device, mais dédié à un PC.
Et moi déjà je comprends pas pourquoi l'iPad Pro n'a pas eu OS X dessus. Là vraiment il y avait tout un sens.
Et ben ça
quoi.
Justement je peux le comprendre.
Bah non, on te fout un clavier, on te fout un stylet, donc allez.
Donc ça devient un PC quelque part.
Bah oui c'est ça. Moi je pensais que c'était pour rentrer en concurrence avec la Surface Pro parce que là actuellement à part la Surface et ses consoeurs, je vois pas ce qui peut faire le boulot autant qu'une Surface
PC,
quoi.
parce que un PC, justement, tu vas avoir tendance à vouloir te poser pour l'utiliser, et que une tablette, de la même manière qu'un smartphone, tu vas pouvoir l'utiliser en mobilité.
Et bah qui
dit
oui,
en
bah
mobilité
ça...
dit une interface simplifiée, dit une ergonomie spécifique.
Ah bah Microsoft le fait très bien, ça.
Justement, Microsoft le fait très mal, au
bah
sens
non,
qu'ils ont
surtout
au
avec
lieu
Windows
de
10.
Laissez-moi terminer.
C'est-à-dire
que justement, au lieu de faire, ben enfin, en tout cas, c'est une vision comme une autre, si vous voulez. C'est-à-dire, moi, je suis pas d'accord avec la vision de Microsoft. Si vous l'aimez bien, pourquoi pas. Mais vous avez tort, c'est tout. Mais le
c'est
fait
une question
de
point de vue.
Ah bon.
Je troll. Le fait justement de vouloir faire un OS unique qui gère à la fois le côté mobilité avec toutes les tuiles, etc. Et le côté desktop, c'est problématique pour deux raisons. C'est problématique parce que vous êtes le cul entre deux chaises, et on l'a vu avec Windows 8 où il y en a énormément qui ont gueulé avec ce menu démarré qui prenait tout l'écran, vu qu'en gros c'était ça, et qui ont demandé à ce qu'on revienne à un menu démarré en bas, qui marche une fois sur deux sur Windows 10 d'ailleurs, quand on a les build développeurs.
On passe à la version officielle et puis t'auras plus de problème.
Oui, non mais j'ai pas moi de problème, j'utilise pas Windows 10. Mais c'était un petit tacle à quelqu'un qui se reconnaîtra. Le truc c'est que du coup on se retrouve donc le cul entre deux chaises avec des applications qui des fois sont prévues pour une partie de l'OS, des fois qui sont faites pour l'autre, et donc avec des interfaces qui changent. Des fois tu ouvres une photo, tu sais pas pourquoi ça te la lance dans l'application plein écran au lieu de t'ouvrir ça dans simplement la visionneuse de photos de la version desktop. Au final on est sur quelque chose de très bancal qui est une bonne idée sur le papier, mais qui, dans la réalisation, au quotidien, n'est pas si pratique que ça.
Ça se cherche encore, je trouve qu'on est sur une super bonne voie, déjà.
Ah oui, non, mais ça peut s'améliorer, ça peut se paramétrer. Oui, mais encore une fois, le problème, c'est que si tu comptes sur l'utilisateur pour paramétrer les choses pour que ça fonctionne bien, je suis désolé, mais tu fais pas ton boulot d'ergonomiste.
Non, ça, je suis d'accord, mais ça n'a jamais été le côté de
Microsoft.
Mais ça n'a
jamais été
la
force de Microsoft.
Ah non,
c'est
pas
clair.
Du tout, hein, au contraire.
Microsoft, c'est du bidouillage, et c'est fait pour les gens qui sont capables de bidouiller.
Ah oui, et quand tu bidouilles, t'as un système qui est parfait. Hein.
Voilà, donc
bah voilà,
Apple
pourquoi
étant...
j'en suis content, alors.
Apple étant un truc pour les handicapés de l'informatique.
Mais voilà, et c'est pas la même cible, et chacun sa cible, j'ai envie de te dire, tu vois.
Voilà, ils ont raison de séparer les deux.
Et
ils
en
ont
même temps,
raison sur l'iPad Pro de garder iOS.
Ouais, mais en même temps, j'ai envie de te dire, si déjà tu as acheté une tablette qui te fasse PC et tablette, c'est que tu bidouilles un minimum, quoi.
Qui te fasse PC et tablette.
Non, mais je veux dire...
Avec la Surface.
Ouais, voilà. C'est que
si un
minimum,
c'est
pas le même cible.
Mais c'est toi, PC
honnêtement,
tout
honnêtement, moi, le produit idéal, ce serait un PC portable que je puisse poser sur un dock, je sais que ça existe, hein, où j'aurais Windows dessus, dès que je le sors du dock, j'ai OS X dessus, dès que j'enlève l'écran de ce PC portable, j'aurais iOS dessus, tu vois, ce serait un mix de tout ça, quoi.
Tu sais qu'il y a un truc qui avait été fait dans le temps et qui n'a pas été trop suivi, pourtant c'était un truc absolument génial. Et dans la série séparer les deux OS, avoir deux OS mais sur un même appareil. C'était pas ça. Il y avait Asus, je crois, qui avait sorti un double boot Android et Windows.
Ouais, mais c'est Android, oui. Quoi. Laisse tomber, quoi.
Mais je crois que Microsoft. Il n'y a pas Microsoft qui avait gueulé parce
qu'ils
voulaient pas.
Et bah oui, justement, ils avaient gueulé.
Voilà,
parce que
je me souviens.
Ils disaient,
c'est complètement con.
Faut pas délirer.
C'est une super idée. Enfin,
au final, t'as une vraie séparation.
Ah
c'est
ouais,
pas tu double cliques sur un fichier, ça t'ouvre une autre interface. Et c'est là où justement Microsoft avait peut-être quelque chose à jouer en séparant plus les deux interfaces, en les rendant pas étanches forcément avec un partage
de fichiers.
Mais
c'est ce qu'elle fait maintenant.
Mais
c'est ce qu'elle fait maintenant.
Encore une fois, ils pourraient faire mieux.
Parce que tu as ces PC là qui se dockent dans tous les sens et qui se transforment en version toujours le même système d'exploitation, mais qui passe de version tablette à version bureau, desktop, quoi.
Oui, les PC tout en un avec Windows 10 maintenant auraient en plus tout à fait cette fonction là. Et franchement, après avoir testé un petit peu les appareils, ça marche très bien.
Et t'as pas le problème de quand tu lances un fichier dans la version desktop que ça t'ouvre le mauvais. Et que ça te rebalance dans la version...
Non,
non,
ça te rebalance pas dans l'autre version, non. Si tu
configures bien ton truc et que tu passes bien 3 heures à tes associations fichiers...
Laisse-moi finir. Là, moi, j'ai un PC normal. Enfin, un PC portable normal. Mais tu vas dans un magasin, par exemple, et tu prends les fameux PC transformables tout en un, les Transformer Book, les Yoga, les je sais plus quoi... Ceux-là, ils ont le mode automatiquement géré. Mais moi, c'est pas automatiquement géré, puisque c'est un PC normal.
Mm-hmm.
Donc moi, il faut juste que je lui dise, je veux passer en mode tablette ou alors je veux rester en mode desktop. Mais mm-hmm. les PC tout en un, comme c'est géré automatiquement, à partir du moment où t'es en mode nomade, ça passe tout seul en mode tablette. Et donc, ça, toutes les applications sont affichées en mode tablette. Ça D'accord. oblige toutes les applis à s'afficher en grand écran et puis à être contrôlées avec le doigt. Et par contre, quand tu passes en mode desktop, bah, ça oblige toutes les applis à s'ouvrir en mode fenêtré et à être plus facilement contrôlable avec la souris.
D'accord, donc ils ont bon, quand bref. Même bien passé une couche de polish entre Windows 8 et Windows 10.
Ouais, alors, on est en train de dévier complètement le sujet là.
Oui, mais c'est pas un sujet inintéressant, c'est ça le problème.
Non, mais ça pourrait réserver un sujet avancer. À lui tout seul.
Mais bien sûr.
Donc on va pas te griller tes futurs dossiers.
T'inquiète. Je sais pas sur quoi je vais encore faire le. Je vais faire le prochain, mais tu vois là par exemple là je vais réécouter l'émission. À mon avis, je vais avoir 3, 4, 5, 12 idées.
D'accord.
Donc on en reparlera le mois prochain.
Très bien.
Mais juste une petite remarque avant de quitter la chronique tech du professeur Phil, c'est que là en fait tu as fait tu as beaucoup parlé de l'interface pour saisir du texte sur un appareil.
Mm-hmm.
Pour remplacer quelque part le papier et le stylo, mais tu n'as pas du tout parlé en fait de la commande vocale avec OK
Google,
Siri,
une raison.
Tout ça.
Il y a une raison, c'est parce que, mais là c'est pas une question de sujet, c'est une question de choix dans ma chronique. Hein. Mm-hmm. C'est que à la base ma chronique c'était pour réagir aux gens qui disaient que Tim Cook avait trahi Steve Jobs en proposant l'Apple Pen. Là, je voulais démontrer, ou en tout cas donner des éléments de réflexion aux gens pour qu'ils puissent mettre en relation le côté taille de l'interface avec les outils qu'on peut ou qu'on doit ou qu'on veut utiliser dessus, et aussi faire un petit historique de ce qui s'était fait. Donc oui, effectivement, mm-hmm. j'aurais pu en parler, mais là, c'était un choix de vraiment parler que de l'entrée d'informations dans le truc de manière écrite. D'accord, que ouais, ça soit ouais, ouais. de manière écrite avec des caractères ou que ça soit avec des gestes. Voilà. Donc c'était vraiment autour de l'écriture. Effectivement, j'aurais pu parler des commandes vocales, mais c'était un peu hors sujet dans ce que je voulais parler. Quoi.
Je comprends.
C'était stylé or not, stylus or not stylus, ouais, ma chronique.
That's the question. Bon, en tout cas, c'était un beau dossier, hein. Franchement, super sympa.
Ouais, super sympa.
Bah, je reviens le mois prochain avec un moins préparé parce que forcément, le premier est toujours bien, puis le deuxième, ça baisse, etc. Donc. Voilà.
Si tu baisses, vu le premier, ce sera toujours bien, t'inquiète
pas. Ah ouais,
pas.
C'est clair, là t'as mis la barre très haut, quoi.
Ouais, c'est ça le problème, c'est un peu ça.
On aurait dû faire le dossier du professeur Phil pour le premier, là.
ouais, c'était un peu ça. Non, mais la fois prochaine, je pense que quand même, vu que c'est un peu ce que je fais dans mes activités de pot de choses, je pense qu'on va
bien.
souvent... De quoi ?
Non, je veux dire, ça te parlait, enfin, t'as de l'expérience là-dedans, quoi.
Non mais je parle en termes de non mais justement on va parler plutôt d'ergonomie en fait assez souvent parce que c'est un sujet qui me tient à cœur qui est assez peu traité au final les choix d'ergonomie donc on y reviendra souvent, ce sera pas forcément le thème de la semaine prochaine mais on reviendra souvent sur l'ergonomie parce que vous avez vu on part assez vite dès qu'il y a l'ergonomie parce que les gens sont pas forcément d'accord le mois prochain.
Ah mais si tu veux revenir la semaine prochaine...
Non, faut que je le prépare. Là, tu vois, j'ai mis 2 semaines à écrire cette chronique, quand même.
Ah oui, d'accord.
Ah, oui,
j'ai
d'accord.
pas mis 2 semaines à faire que ça, mais tu vois, j'ai écrit 2-3 lignes, puis ensuite j'ai réfléchi, j'ai repensé à ça, j'ai rajouté ci. Voilà. Donc,
bon, très bien, en tout cas, merci beaucoup à toi.
Y a pas de soucis.
Alors, tu nous quitteras avant la fin, mais pour l'instant, tu restes encore, c'est ça ?
Pour l'instant, je reste encore un petit peu, allez, une petite demi-heure, on va dire.
Ça marchera, très bien.